Chapitre 10. À mesure que l'été avançait, le vide se faisait autour des aftalions. Depuis longtemps, l'argent donné par M. Simonet avait fondu. Pour vivre, Nicolas empruntait à droite et à gauche. Partout, il devait quelque chose. Partout, il avait promis de rendre sous peu, et bien qu'il eût été sincère sur le moment, le jour de l'échéance venu, il ne donnait pas signe de vie. Louise n'osait plus revoir les Rousseau, ni sa sœur, ni son frère, ni les gens qu'elle connaissait, car à tous, elle avait juré de rendre les quelques 1000 francs qu'elle devait avant la fin du mois dernier. Chaque semaine, la blanchisseuse remportait les notes impayées. Quant à la marchande de journaux voisine de l'hôtel, elle consentait à faire crédit. Aussi, Madame Aftalion y achetait-elle les journaux de mode les plus chers, sans que l'incitation à l'achat que donne le crédit, dont on parlait cependant autour d'elle, lui apparut. La semaine précédente, Nicolas avait réussi à se faire prêter 100 francs en s'adressant séparément à divers habitués du Monaco. Cela avait eu un peu l'air d'une collecte. Aussi redoutait-il que la chose n'eût passé de bouche en bouche et n'osait-il plus retourner au café. Au lieu d'aller demander à ses créanciers de patienter, de leur expliquer sa situation, de leur donner quelque espoir, de les rassurer par sa présence, il avait pris le parti de ne plus se montrer. À peine avait-il promis de s'acquitter que la pensée de n'en rien faire ou de ne rendre que la moitié se glissait dans son esprit. Il avait l'impression que le créancier attachait de moins en moins d'importance à cette dette, qu'il l'oubliait même, et le jour venu de la régler, se souvenant qu'on lui avait dit parfois que cela ne pressait pas, il se gardait bien de se rendre chez son créancier, de peur que sa démarche lui rappelât un engagement complètement parti de sa mémoire, et que, d'autre part, il ne tenait pas particulièrement à voir exécuté. Nicolas avait agi ainsi avec tant de gens qu'il redoutait par-dessus tout de recevoir une lettre. Des injures ou un ton sec le rendaient malade. Il avait beau se raisonner, se dire qu'après tout ce n'était qu'une lettre et qu'on ne pouvait rien contre lui, il vivait alors de longues heures d'inquiétude. Comme il sortait de l'hôtel Excelsior, le propriétaire lui tendit justement une lettre. Il la prit en affectant de l'indifférence, n'osant pas pourtant l'ouvrir tout de suite. Elle provenait certainement de quelqu'un qui lui réclamait de l'argent. Il chercha sur le timbre le cachet de la poste et lut « Passy ». Ça y est, ce sont les Rousseau. Finalement, il déchira l'enveloppe et, sautant au bas de la lettre, lut « Je vous prie de faire en sorte que cette affaire soit réglée au plus tôt. J'ai fait, il me semble, preuve de patience. Croyez, monsieur, à mes sentiments distingués. J. Rousseau. » Nicolas, sans lire le commencement, glissa la lettre dans sa poche. Il eut l'impression que l'on s'acharnait sur lui. Les mots « Je vous prie de faire en sorte » le glaçaient. « Moi aussi, je saurais écrire. Je vous prie de faire en sorte. Cela doit même être agréable de le faire. » Il pensa à Simone. Depuis la soirée qu'il avait passée en sa compagnie au cinéma, il l'avait revue 2 fois. Une intimité commençait à naître entre elle et lui. Bien qu'il constatât que cette lettre ne modifiait en rien sa situation, il se sentit acculé. La fin était proche, sans aucun doute. Il allait perdre Simone. Charles est peut-être revenu de Rouen. Son dernier espoir, il le plaçait sur le frère de sa mère. Quoiqu'il ne fût que 10 heures du matin, l'air était déjà lourd. Les trottoirs, lavés devant certains magasins, séchaient par endroits. Une brume légère et en mouvement voilait le ciel. Le soleil, qui traversait cette vapeur, répandait sur les rues une lumière si égale qu'à peine discernait-on les ombres. Nicolas ne savait où diriger ses pas. Tant de stores étaient baissés qu'il devait à tout moment courber la tête. En marchant, il écrivait mentalement la liste des gens qu'il connaissait. Arrivé au dernier, l'effort qu'il faisait pour en découvrir d'autres chassait les premiers de sa mémoire. Il recommençait alors, trouvant dans cet exercice un délassement. « Si j'allais chez Charles, » pensa-t-il. Sans qu'il s'en fût rendu compte, il s'était approché de la place Pereire, comme si quelque souvenir heureux l'eût attiré vers cet endroit. Mais une réflexion le glaça soudain. « Il m'a peut-être écrit, lui aussi. La lettre a été mise à la poste hier, trop tard dans la soirée, pour m'être parvenue ce matin. Elle arrivera cet après-midi. Quand on reçoit une lettre désagréable, il est bien rare qu'une autre ne suive pas. Et justement, je vais le voir pour lui emprunter encore de l'argent. Hein ? Ce n'est pas mal comme coïncidence quand on y réfléchit. La peur de cette lettre en route la mollissait et le rendait hésitant. Cependant, il ne tarda pas à se trouver devant l'immeuble de Charles Perrier. Jamais le chemin ne lui avait paru si court. Des pensées désordonnées se succédaient dans son cerveau. Il s'imaginait qu'il sonnait et repartait avant qu'on lui ouvrît, que tout à coup Charles se mettrait à la fenêtre, le voyait mais ne le reconnaissait pas, qu'on l'accueillait avec froideur ou, au contraire, avec une telle amabilité qu'il n'osait plus demander quoi que ce fût. Mais l'idée que tout se passerait autrement qu'il pouvait le prévoir le ranima. Par un calcul enfantin, il se représenta Charles furieux, l'injuriant, claquant la porte à sa vue, afin que cela ne fût pas ainsi dans la réalité. Finalement, il sonna. Il attendit un long moment. Le rez-de-chaussée était silencieux. Il sonna de nouveau. Cette fois, la porte s'ouvrit. Charles, les yeux gonflés de sommeil, les cheveux défaits, la cordelière de sa robe de chambre pendant derrière lui, remarqua aussitôt « Vous avez de drôles d'heures, jeune homme, pour venir chez les gens. Allons, entrez tout de même. » Nicolas, cette dernière parole, reprit confiance. Que Charles ne parut pas impatient de le revoir, le rassurait. Il n'avait donc pas écrit de lettre. Comme Nicolas entrait au salon, où, sur tous les meubles, à terre même, traînaient des verres à liqueur, des disques de phonographe, des collerettes de petits fours, des cendriers pleins à déborder, une voix de femme cria « Qu'est-ce que c'est ?»« Mon neveu, » répondit Charles solennellement. « On a de la famille, nous autres, c'est solide. » Un éclat de rire partit du fond de l'appartement. « Je n'ai pas le droit d'avoir un neveu, » continua-t-il. Le rire redoubla. Se tournant alors vers Nicolas, il lui fit signe, en se frappant le front, que sa maîtresse ne possédait pas toute sa raison. « Alice est détraquée !» dit-il assez fort de manière qu'elle l'entendit. Il aimait le genre de plaisanterie qui consiste à faire semblant de ne pas remarquer la présence d'un ami pour parler de lui comme s'il était absent. « Elle a un grain. Il faut que je la fasse soigner. »«
Quand tu auras fini de dire du mal de moi ?» fit la voix criarde d'Alice, qui, s'adressant tout à coup au visiteur, continua ainsi. « Ne l'écoutez pas, monsieur. Il profite que je ne peux pas me défendre. »
« Je vais être obligé de faire venir un docteur, » poursuivit Charles comme si de rien n'était. « Il y a des moments où elle ne se rend plus compte de ce qu'elle dit. Dehors, j'ai tout le temps des histoires à cause d'elle. » Il s'interrompit pour souffler à son neveu de lui répondre « Cela ne doit pas être drôle. » Nicolas éprouva le sentiment d'un subordonné pris à témoin par quelques maîtres. L'invitation de son oncle le mettait à pied d'égalité. Mais que cela fût pour un instant seulement, blessait son orgueil. Il aimait mieux ne point goûter à une familiarité provisoire. D'ailleurs, il lui sembla que la moindre participation au jeu tournerait par la suite contre lui. Comme la plupart des timides, il préférait rester en deçà de l'amitié. Alice, qui s'était levée doucement pour qu'on ne l'entendît pas, pénétra dans le salon vêtue d'un pardessus d'homme dont elle avait fermé tous les boutons et relevé le col. Parce que les manches en étaient trop longues, elle faisait de grands gestes, ainsi que si des voiles eussent pendu à ses poignets.
« Voilà la folle !» dit-elle tout de suite. « Regardez, messieurs, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se trouver devant une folle. »«
C'est comme cela que tu dis bonjour à mon neveu ?»«
Bonjour, monsieur. Vous êtes aussi matinal que les facteurs et les oiseaux. »
Elle aimait à surprendre. En parlant d'un homme petit, elle disait par antiphrase « le colosse ». Mangeait-elle un gâteau qu'elle observait tout à coup avec un air entendu « il est bon et mauvais ». Alice était espiègle. Elle ne pouvait voir un chapeau d'homme accroché à un porte-manteau sans le mettre aussitôt et les mains aux hanches prendre des attitudes de danseuse, car c'était un besoin qui lui venait immédiatement dès qu'elle avait un chapeau inhabituel sur la tête que d'imiter une danseuse espagnole. Cela, la grande frayeur de Charles, qui redoutait l'arrivée du possesseur du chapeau. Dans les restaurants, elle faisait des grimaces aux gens qui lui tournaient le dos, parfois même à ceux qui se trouvaient de profil.
Il n'y avait point de farce qui ne lui parusse possible. Elle glissait dans les poches de Charles les objets les plus hétéroclites, cachait parfois son portefeuille quand il était pressé, jusqu'au moment où la colère l'envahissait. L'acquitter était un événement. Il fallait que Charles l'embrassât 20 fois. Puis, au moment où il ouvrait la porte, elle le rappelait encore. Elle usait du pouvoir qu'elle avait sur son amant. Il lui plaisait, par un seul mot, de le retenir. Aussi, quand finalement il passait outre, le poursuivait-elle jusqu'à la dernière limite de ses cris, car, sous ses marivaudages, elle ne perdait pas son bon sens. Nicolas ne quittait pas la jeune femme des yeux. Quand leurs regards se croisaient, il sentait que derrière les plaisanteries, les gestes et les rires, elle l'observait avec sérieux. Il devinait en elle ce don de la compréhension qui fait que l'on se range à l'avis de celui qui vous prend à part et qui rendait sympathiques à Nicolas les gens qui le possédaient. Pourtant, la vue de ce couple égoïste et heureux, de cet intérieur douillé, lui était pénible. Il ne pouvait s'empêcher de songer à sa vie, à lui, à la misère dans laquelle il se débattait avec sa mère. Le souvenir de Simone lui vint à l'esprit. Elle était plus belle qu'Alice, mais il lui manquait ce qui environnait celle-ci. Il eût désiré pour elle un intérieur, une gaieté, une insouciance semblable. « Vous avez pris votre petit déjeuner ?» demanda Charles. « Oui, je vous remercie. »« Bon, cela ne nous empêchera pas de prendre le nôtre. » De toutes ces relations, celle-ci attirait et en même temps éprouvait le plus Nicolas. Il enviait son oncle. La vie que ce dernier menait était si pareille à celle qu'il désirait qu'il souffrait de passer auprès de lui pour un jeune homme se contentant de ce qu'il possédait et de ne pouvoir le jalouser. Charles avait été plusieurs fois blessé à la guerre. Des éclats d'obus n'avaient pu être extraits de sa poitrine. Les souffrances qu'il avait endurées, la mort devant laquelle il avait vécu pendant 4 ans, lui donnaient, aux yeux de Nicolas, le droit de vivre avec égoïsme. Les soucis d'argent, la misère, paraissaient flasques à côté de ce que cet homme avait supporté. Il ne parlait pourtant jamais de la guerre, trouvant naturel d'avoir subi le sort de tous. Il méritait son bonheur. Nicolas se sentait, près de lui, dominé, écrasé. Lorsqu'il se comparait à cet homme actif, pour qui les pires mots d'aujourd'hui étaient puérils en regard de ceux par lesquels il était passé, et qui manifestait continuellement de la bonne humeur, Nicolas avait l'impression d'être un enfant, ce qui le décourageait, car cela n'amoindrissait en rien son envie de lui ressembler. « Et votre mère, comment va-t-elle ? » demanda Charles. « Et le fils du frère de ta tante ? » fit Alice, qui était sortie un instant pour mettre un peignoir. « Il dort, laisse-le se reposer, » répondit Charles au hasard, pour montrer à sa maîtresse qu'il avait bien compris qu'elle se moquait des degrés de parenté. Nicolas attendait avec impatience qu'Alice quittât la pièce. Devant elle, il n'osait parler ni faire la demande qu'il avait projetée. Pourtant, elle ne manifestait pas le moins du monde l'intention de se retirer. Et, ce qui mettait le comble à la nervosité de Nicolas, c'était que Charles ne s'apercevait de rien et que, lorsque sa maîtresse se dirigeait vers la porte, il la retenait. Finalement, les deux hommes restèrent seuls. Nicolas guettait un moment favorable pour demander de l'argent. Charles, depuis qu'Alice était partie, ne faisait que parler de soi. « Si l'affaire marche, disait-il, les pesettes astomberont. » Comme Nicolas l'écoutait bouche bée, il ne cessait de se décerner des éloges, s'attardant avec satisfaction sur ce qui ne faisait ordinairement que penser. Car c'était un côté de son caractère que de se vanter devant les gens qui lui paraissaient timides et réservés. « Je suis un type épatant. Un autre aurait 100 fois raté l'affaire. On parle d'esprit d'à propos, d'initiative. Eh bien, je vous assure que j'en ai à revendre. » Avec son neveu, il ne se gênait pas. Mais il y avait une autre raison à cette abondance d'éloges sur lui-même. Au fond, il n'aimait pas Nicolas. Quelque chose qu'il ne comprenait pas et qui lui répugnait était en celui-ci. Sa douceur, ses approbations continuelles, sa timidité, lui donnait dans l'ensemble une impression de veulerie. Les étrangers, à part ceux des pays limitrophes avec lesquels il s'était familiarisé, il se les représentait d'un caractère semblable à celui de son neveu. « Ils ne veulent rien faire, » disait-il souvent. Les femmes les font vivre. Ils viennent en France, on se demande pourquoi, et une fois chez nous, ils se plaignent continuellement. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Si j'étais quelqu'un, cela ne serait pas long. Demain, on les aurait tous reconduits à la frontière. » Il avait l'impression que Nicolas faisait partie de ces étrangers qu'il méprisait. En face des Aftalions, il se gardait pourtant d'avouer ce sentiment. Jamais il n'avait dit du mal des étrangers. Aussi, par compensation, se louait-il devant Nicolas d'une manière exagérée, en paraissant insinuer « Voilà comme nous sommes, nous autres Français !» Ainsi se rattrapait-il de n'avoir pu exprimer le fond de sa pensée et avait-il conscience de repousser son interlocuteur dans le néant d'où il avait surgi. « Si l'affaire réussit, c'est 100 billets qui tombent comme cela !» En écartant deux doigts devant lui, il fit le simulacre de lâcher une petite pierre, puis, se courbant aussitôt, celui de la rattraper au vol. « Vous avez de la chance !»« Il n'y a pas de chance qui tienne. Il faut vouloir, vous m'entendez, jeune homme ? Mais il ne faut pas vouloir comme cela, en l'air. Il faut vouloir, vraiment vouloir. Moi, par exemple, quand je veux quelque chose, je ne dors plus, je ne mange plus. Il peut arriver n'importe quoi que je veux toujours. Comme cela, il n'y a rien à faire, j'ai le dernier mot. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Cela les épaterait, les gens de votre pays ? » Nicolas sentait confusément l'hostilité de son oncle qui avait, malgré lui, dépassé la mesure en prononçant « les gens de votre pays » sur un ton méprisant. Pour la conjurer, Charles prit une expression de brave garçon. « Bon sang, il faut de l'énergie dans la vie, sans quoi vous en sortez comme d'un laminoir. » Encouragé par l'attention feinte de Nicolas, il voulut donner l'illusion d'être guidé par une morale précise. « Soyez juste, mais soyez fort !» Mais autant ses paroles précédentes avaient paru naturelles, autant cette dernière fut dite d'une manière pompeuse. Pour se reprendre, il frappa la cheminée du poing. « Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis de votre avis !» Le tour de la conversation gênait Nicolas. Il lui apparaissait qu'après une telle leçon, il était presque impossible de demander quoi que ce fût. Pourtant, le temps pressait. D'une minute à l'autre, son oncle pouvait le prier de partir. Profitant d'un instant de silence, il fit d'un trait « Ma mère m'a envoyé vers vous pour vous demander d'être assez gentil, de lui prêter encore un peu d'argent. » Charles ne répondit pas tout de suite. Puis, après avoir regardé Nicolas dans les yeux, « Elle exagère un peu, ma chère sœur. »« C'est exceptionnel. »« Je l'espère bien. » « Je veux dire que c'est parce que nous sommes très gênés en ce moment. »« Possible. Nous vous rendrons cet argent quand vous voudrez. »« Par exemple, je ne sais pas, le mois prochain. »« Mais alors, vous ne voulez rien fiche, vous ? Vous croyez qu'il y aura toujours des bonnes poires pour vous entretenir, hein ? Moi, je vous dis ça comme cela. Cela ne me regarde pas. Vous avez la flemme. J'ai eu aussi la flemme. Je sais ce que c'est. » Mais un conseil d'amis, débrouillez-vous mieux que ça. » À ce moment, Alice entra dans le salon. « Regarde-moi, Charles !» Elle tenait dans chaque main une petite haltère et essayait de les monter lentement à bras tendus. « Est-ce que ce n'est pas trop mal pour une femme ? » demanda-t-elle. « C'est très bien, mais laisse-nous tranquilles. »« Insolent ! Laisse-nous, je t'en supplie, tu vois bien que j'ai à parler. » « Si je te gêne, il faut le dire. »« Eh bien, je te le dis. »« Et si je restais ?»« Oh là là, quand tu t'y mets !» Finalement, elle sortit, non sans faire un pied de nez à son amant. Charles continua. « Votre mère me doit déjà 5 000 francs. Elle devait me les rendre le mois dernier, mais je n'ai rien vu venir. »« Justement, elle m'a prié de vous dire qu'elle s'excusait que... »« L'argent, c'est l'argent. » « J'ai de l'argent, c'est entendu, mais il en faut dans les affaires. Il suffit d'en manquer pour rater la plus belle des occasions. Et combien veut-elle ? 2 000, si vous pouviez. Possible. » Ce mot emplit Nicolas d'un profond soulagement. Il voulut crier sa reconnaissance, promettre n'importe quoi, se prosterner devant son bienfaiteur. Mais l'attitude bon enfant et sensée de son oncle l'en empêcha. Il eut l'impression qu'il ne se souciait point de reconnaissance. Aussi Nicolas ne fit-il que balbutier. « Merci, merci. Vous ne savez pas à quel point vous nous rendez service. »